révérend père provincial, mes révérends pères et membres du clergé, mes révérendes sœurs, messieurs les députés et son honneur le maire, mes bien chers frères. À ces manifestations du tricentenaire de la naissance de la Vierge Iroquoise, Catri Tekawita, même si malheureusement elles sont modifiées par une température défavorable, à vous tous ici présents, comme curé de cette paroisse, je souhaite la plus cordiale bienvenue. Il nous convenait aussi, en cette année 1956, de commémorer à la côte Sainte-Catherine le tricentenaire de la naissance de notre petite Catherine. Permettez-moi de vous lire un extrait d'une lettre du révérend père Romy Tellier, jésuite, à son supérieur en France, daté de la Prairie, le 30 janvier 1844, lors de la restauration de la croix sur le tombeau de la bonne petite Catherine. Une des cérémonies les plus intéressantes que nous eûmes à la Prairie fut la restauration de la croix sur le tombeau de la bonne Catherine Tekawita. Ce fut une heureuse idée de quelques habitants du voisinage. Il y avait eu de tout temps une croix érigée sur le tombeau de la Vierge Iroquoise, mais celle qui s'y trouvait tombait de vétusté. Trois habitants équarrirent, peignirent et décorèrent une croix neuve en bois de 25 pieds d'eau. Le vénérable missionnaire du Sault Saint-Louis donna quelques ossements de la Vierge qui furent enchâsés très proprement dans une niche pratiquée au tronc de la croix. Et le septième dimanche après la Pentecôte, 23 juillet 1843, nous nous rendîmes sur les bords de la rivière du Portage, à côté et à droite de la croix, magnifiquement ornée de guirlandes et couchée sur un plan incliné, s'élevait une estrade ombragée au-dessus de laquelle flottaient quatre drapeaux avec des inscriptions iroquoises et françaises. La nation iroquoise avait été solennellement invitée au triomphe de son héroïne. Elle arriva à la suite de son missionnaire, de son interprète et de ses chefs. Elle se plaça à la droite de l'enceinte réservée et pointa son canon à l'embouchure de la rivière du Portage dans la direction du fleuve et de la ville de Montréal. Une sauvagesse du nom de Tekawita apporta sur son char un assez bon tableau de sa patronne et en décora le front de l'estrade. La multitude franco-canadienne et anglaise, accourue de la ville et des paroisses environnantes, prit place à la gauche et en face de la croix et de l'enceinte réservée et braqua son canon à ses côtés. Le fleuve Saint-Laurent coulait au pied de la croix et le murmure des rapides voisins se mêlait au sifflement d'un vent impétueux, avant-coureur de l'orage, et aux accents confus de la multitude religieuse. L'heure de la cérémonie a sonné. La bannière de la paroisse et les drapeaux iroquois flottaient dans les airs. À la première décharge du canon, le Vexilla Regis est entonné et la procession sort de la maison où s'était réuni le clergé, se déploie, pénètre les flots du peuple et va se ranger dans l'enceinte réservée. Au chant de l'église succèdent quelques couplets de cantiques très bien exécutés par un chœur de jeunes filles. Le canon commande le silence et l'attention. Et le révérend père Martin du haut de l'estrade prononce un discours français. Aussitôt après, les Iroquois commencent leur musique et la rivière du Portage répète avec étonnement, après un siècle et demi de silence, le cri perçant de la sauvagesse iroquoise. À ces accords succède le sermon de M. Marcoux en langue iroquoise, et toute la multitude est bâillie d'écouter la bouche béante, les modulations monotones, gutturales, nasillales du prêtre qui a surton. C'est l'Iroquois mieux que jamais, il n'a été su. Aussi le canon applaudit-il à l'éloquent orateur. Vient ensuite l'allocution anglaise, dont voulut bien se charger M. le vicaire général Hudon, en remplacement d'un sulpicien malade qui avait été invité. Alors enfin, la croix reçut la bénédiction de M. le vicaire général et se leva avec pompe et majesté sur les bords du Saint-Laurent, au milieu des chants de l'église, des décharges du canon et des acclamations de la multitude. M. MacDonald, ancien officier anglais, quoique dissident, voulut bien se prêter aux évolutions de cette fête, unique dans son genre, et si le temps eût été aussi serein que les pensées et les physionomies, nous n'aurions eu rien à désirer. Mais un orage effroyable termina la fête et imprima dans tous les esprits le souvenir de cette mémorable journée. À son tombeau cénotaphe, qui vient d'être restauré, rajeuni, à l'occasion de ces deux dates, 1656-1956, ou le tricentenaire de sa naissance, nous avons aujourd'hui le même sort qu'aux fêtes de 1844 et de 1955, ce 275e anniversaire de sa mort. Une température tout à fait défavorable pour nos visiteurs étrangers, nos démonstrations extérieures. Toutefois, il restera bien quelque chose de ce tricentenaire. Ce matin, dans l'église bien remplie, la Sainte Messe fut célébrée solennellement par le révérend père provincial des Jésuites, agrémenté par les magnifiques chants de notre chorale, et un imposant sermon de circonstances. Cet après-midi encore, à cause de la mauvaise température, en cette église des mieux décorées et des plus remplies, comme au plus grand jour de fête, nous avons, contrairement à ce qui a été annoncé, notre cérémonie à l'intérieur. Si les nombreux visiteurs ne purent tous y trouver place, si les discours de nos autorités civiles ne peuvent s'y faire entendre, avant la bénédiction solennelle du Très-Saint-Sacrement, rehaussée par la présidence d'un prélat, par les chants de la célèbre chorale iroquoise de Caughnawaga, nous entendrons également deux allocutions de circonstances. D'abord, par le révérend père provincial des Jésuites et par Monseigneur Joseph Chevalier, le sympathique curé de la prairie, le digne représentant de son Excellence, Monseigneur Gérard-Marie Coderre, évêque de Saint-Jean. Entendons d'abord le révérend père Gérard Goulet, provincial des Jésuites du Bas-Canada.
La jeune Vierge Iroquoise que nous honorons aujourd'hui a vécu sur ses rives et y a été enterrée il y a 300 ans, à l'endroit même qu'elle avait prédit, et où nous voyons présentement l'imposant cénotaphe donné par le curé Walter au Saint-Jérôme d'Albany en 1890. Pour le deuxième centenaire de la mort de Catherine. Il porte cette glorieuse inscription, Catherine Caquita, la plus belle fleur épanouie chez les Indiens. Le modeste hommage que nous sommes venus rendre à Catherine exprime sensiblement la présence d'un mystère et cherche à comprendre une profonde leçon. Un mystère d'abord. Comment ne pas être frappé par cette notoriété à laquelle est parvenu cet humble enfant des bois, notoriété considérable jusqu'à présent et vraisemblablement destinée à grandir encore. Nous osons l'espérer et nous l'implorons du ciel jusqu'à la reconnaissance officielle par l'Église universelle de l'héroïcité de ses vertus. Mais le mystère, c'est que cette célébrité dépasse tout ce qui était prévisible et reste humainement parlant disproportionnée avec les faits qui en sont le point de départ. Comment se fait-il en effet qu'une modeste enfant, une orpheline, à peine connue des siens, qui en fut persécutée même à cause de sa foi, dont l'existence dépassa à peine la majorité, puisque Catherine mourut à l'âge de 24 ans, qui ne fit aucune de ces choses qui nous semblent seules promettre la gloire et mériter les acclamations des contemporains et la faveur de la postérité, rien dans sa vie de ces records sportifs dont s'honorent ses sœurs modernes et dont les récits remplissent les journaux et les revues. Rien de ces rôles de vedettes du cinéma, de ces étoiles qui font les manchettes des grandes publications. Rien de cette fausse noblesse de don que donne la richesse. Rien enfin de ces événements sociaux qui défraient les nouvelles des journaux, des conversations, de la télévision, de la radio. Par exemple, mariage extraordinaire, suivi souvent de quelques retentissants divorces. Et comment expliquer cependant que les foules se déplacent aux États-Unis, au Canada, qu'elles viennent se recueillir autour de son tombeau, que sa cause soit étudiée à Rome et qu'elle y avance rapidement, que son nom soit prononcé avec vénération en Europe et dans les Amériques, qu'une revue lui soit consacrée et qu'il trouve toujours quelque chose à dire sur son histoire ou sur les faveurs qui la prolongent et continuent de la glorifier. Comment se fait-il que l'art se soit emparé de sa vie, de ses traits ou mieux de ses vertus et cherche à les fixer dans le bronze, la pierre, sur la toile ou sur les modestes et populaires boutons souvenirs? Comment expliquer que ces reliques soient précieusement conservées et religieusement vénérées et qu'on s'agenouille au pied de la croix, témoin de son histoire et principale et unique inspiratrice de son existence? Voilà bien un mystère, mes bien chers frères, qui dépasse nos façons habituelles de juger et dont l'explication dernière est à chercher au-delà des apparences. Une force secrète qui échappe à nos catégories a soulevé et transformé cette existence ordinaire et modeste, sans autre prétention que l'aspiration à l'oubli total, au don total de la charité. Cette force mystérieuse, elle s'appelle la grâce, qui défie le temps et la durée et exalte les hommes. C'est ce courant divin qui fait, par la charité divine, des pauvres humains que nous sommes, de quelque couleur, de quelque nation, de quelque pays que nous soyons, des enfants de la grande famille de Dieu, de la noble race de la Trinité elle-même, destinés par héritage à la gloire et à l'immortalité céleste. Et de ton ventre, il plaît à Dieu de transformer sous nos yeux une âme prédestinée pour nous laisser voir jusqu'à quelle hauteur nous pourrions arriver nous-mêmes si nous laissions opérer en nous cette force mystérieuse déposée par le baptême. Alors, sur cet écran lumineux de sainteté devenu sensible et palpable, nous lisons en lettres ardentes ces paroles du Christ Jésus. Je vous rends grâce au Père de ce que vous avez caché ces choses aux puissances. Aujourd'hui, méditez. Voilà maintenant la leçon que nous devons retenir. Nous la trouvons clairement indiquée dans ce vaste tableau qui se prolonge derrière nous et qui nous a produit plus vivement contracté. D'abord, la statue de Capri, son tombeau et la croix, sur la terre même qu'elle habita jadis. Puis, au loin, au second plan, les gigantesques travaux de la canalisation du Saint-Laurent, qui rappellent d'une manière spectaculaire, parce qu'en violente opposition avec la paix et la tranquillité séculaire de ce coin de terre, le caractère principal de notre civilisation moderne. Les conquêtes de la technique humaine sont étonnantes et redoutables. Voilà que de jour en jour, le génie humain additionne ses victoires et ses exploits avec une légitime fierté. Il a trouvé le moyen de se lancer dans l'espace à une vitesse dépassant même celle du son. L'électronique l'aide à calculer avec une vitesse fantastique et sûre les opérations les plus calculées. La radio et la télévision lui permettent d'étendre et de voir ce qui se passe à de grandes distances. La biologie lui a dit comment vaincre la maladie et comment reculer l'heure de sa mort. De récentes découvertes dans le domaine de l'agriculture. La maladie, la misère et la mort. Mais il y a danger que ces valeurs matérielles qu'ils dégagent rapidement et multiplient presque à volonté ne prennent pas sur les autres les valeurs spirituelles et ne se substituent à celles-ci pour devenir son maître et en faire leur esclave. N'est-ce pas ce danger, mes bien chers frères, que nous rappellent la croix et le tombeau de Capri face au fleuve qui se transforme presque à vue d'œil grâce au progrès de la machinerie et de la technique. Et c'est presque un miracle que ce petit morceau de terre sacrée ait été épargné dans ses bouleversements et que par une inspiration dont la Providence sans doute et Capri sont responsables, le crayon des ingénieurs ait respecté ce lopin de sol où s'inscrit et semble vouloir rester gravé pour notre instruction, la leçon dont nous avons besoin. Et nous ne devons pas repartir sans l'avoir retenue. Ce qui rend nos temps instables, difficiles et inquiétants, ce n'est pas la puissance militaire et matérielle du communisme, son organisation, sa stratégie, ses conquêtes, ses menaces qui cachent la plupart du temps sa faiblesse et sa peur. C'est surtout les sympathies qu'il trouve en nous, qu'il y a trouvé depuis longtemps, dans nos jugements, dans nos manières de faire, de considérer la vie et les hommes. Et c'est bien là le plus grand danger actuel. Tant que nous ne donnons pas aux valeurs leurs proportions et leurs places, tant que les fausses valeurs, la richesse, le confort, le plaisir, n'auront pas cédé leur place aux vraies, celle que nous apprend la vie de Capri, les valeurs chrétiennes et spirituelles, du don de soi, de la souffrance chrétiennement acceptée, de la prière, de la charité, nous serons en danger dans notre civilisation matérielle, elle se tournera contre nous et un jour finira par nous écraser. La croix et toute la vie de Capri nous le rappellent, entendons sa voix. Elle peut être Capri, comme l'appelait le premier historien de la Nouvelle-France, la protectrice du Canada.
Mes chers amis, je n'ai pas besoin de vous dire que, au moment où son Excellence me demandait de venir à la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie pour le remplacer à l'occasion de cette cérémonie que nous voulions très belle et qui reste tout de même très belle, j'ai accepté avec empressement parce que je crois que la prairie, cette partie du territoire, reste toujours la prairie. Le souvenir des anciens curés est passé dans mes souvenirs. Aussi j'ai accepté l'invitation avec joie. C'est un véritable bonheur de me trouver parmi vous. Si son excellence était ici, que vous dirait-il? Parlerait-il de la petite Catherine dont nous faisons le tricentenaire? Peut-être. Mais peut-être pas non plus. Si, comme moi, il avait entendu le grand-père provincial en parler si justement et si éloquemment. Il a tiré une leçon. Pourquoi n'en tirerais-je pas une autre? Un jour, notre Seigneur parlait à ses disciples et à ses apôtres du dernier avènement. Et tout à coup, il s'arrête et pose une question. Christus veniens, putas, une veniette fidèle. Si le Christ revenait, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Ses apôtres restent tout ébahis, ne sachant pas pourquoi cette question venait au milieu de son discours et surtout n'en comprenant pas le rattachement. C'est que notre Seigneur en ce moment laissait parler son humanité et son cœur. Il était venu ici-bas, il y était dans le moment. Il s'était donné tout entier et il continuait à se donner. Il avait multiplié les miracles qui plaisaient aux uns. Et qui augmentait la haine chez les autres. Il devait souffrir, donner son sang, mourir sur un gibet comme un infâme, et trois jours plus tard, devait ressusciter par sa propre puissance, prouvant ainsi qu'il était Dieu. Et s'il revenait, voici ce qui se passait dans le cœur du Sauveur. S'il revenait en ce 20e siècle, au moment où l'Église multiplie les canonisations, Sainte Catherine viendra. Il y a déjà un miracle de premier ordre, on en attend un autre. Les Canadiens paraissent pas se presser pour demander des guérisons. Ils viennent d'ailleurs. S'il revenait donc, trouverait-il encore de la foi parmi ses enfants? On n'est pas pressé de répondre. Ou si on répondait, on dirait, mais oui, nous avons la foi. Nous avons été baptisés. Nous avons eu la foi surnaturelle, la vie surnaturelle à notre naissance. C'est vrai. Mais vivons-nous notre foi? C'est là la question que je laisse à votre méditation, comme le révérend père en a dit une autre à votre méditation précédemment. Vivons-nous notre foi? Cherchons-nous à fortifier notre croyance par la lecture assidue de l'Évangile? Y en a-t-il beaucoup parmi nos bons catholiques qui disent l'Évangile, qui la méditent, qui tâchent d'en imprégner leur cœur et d'éclairer leur esprit? On me répondra, on a été au catéchisme, on a appris toutes ces choses concernant la foi. depuis qu'on est sorti d'école, on a ouvert bien souvent ce catéchisme. Et si on l'avait ouvert fréquemment, on serait rendu compte qu'il faut étudier. Et on aurait ouvert l'évangile. C'est ce que disait Saint-Luc dans le préambule de son évangile. Il écrivait, il l'appelait Optime Théophile. On ne sait pas au juste qui c'est. C'est une congrégation d'hommes, ou si c'est un seul homme qui occupait une position sociale assez marquée. Et il lui disait, après avoir entendu par des témoins, et après avoir entendu par les ministres tout ce que notre Seigneur a fait, c'était la bénédiction. J'ai cru moi-même, après avoir assemblé avec soin tout ce qui s'est passé, de le livrer. Afin que tu connaisses la vérité de tout ce qui a été dit. Or, la vérité de tout ce qui a été dit, nous trouvons ça dans l'Évangile. Une objection. Est-ce que la petite Catherine s'est livrée à l'étude de l'Évangile? La petite Catherine a eu la foi et a reçu le Saint-Baptême. Elle était en relation avec son Dieu. On l'a fait communier avant l'ange Requidanta. Elle a passé des heures et des heures à prier dans l'église. Elle s'est mise en commerce avec Dieu. Et c'est comme cela que par intuition, elle a connu l'Évangile. Mais bien le frère, nous n'en sommes pas rendus à ce point-là. Dieu demande des efforts de notre part. Et comme conclusion de cette magnifique assemblée, si chacun prenait la résolution de laisser de côté tout ce qui ne sert pas à développer la foi, et s'il se permet à la lecture, c'est pas suffisant, à la méditation, une page, une demi-page, l'Évangile du dimanche, je vous assure que la foi grandirait dans notre belle province de Québec. Nous avons été gâtés. Bon Dieu nous a redonné. Il ne s'en répand pas. Mais il ne peut nous rendre compte. N'emplissons pas des talents que nous avons reçus. Faisons-les produire. Chantons les grandeurs de Dieu pour celles qui vont en être pénétrées, les grandeurs de Dieu. Chantons-les. Et tous, remplis d'une foi nouvelle, nous ferons rayonner autour de nous le bien. Et plus le bien rayonnera autour de nous, plus le mal s'en ira. Et nous aurons ici, chacun dans notre propre cœur, la paix. Dans nos familles, la paix. Dans la société, la paix dans l'autre, dans le monde entier. Cette paix que le souverain pontife demande depuis tant d'années et qu'il nous prie de vouloir bien arracher au cœur de la Vierge par la visitation du rosaire.
Après la bénédiction du Très-Saint Sacrement, nous nous rendrons processionnellement au tombeau. Avant le chant de l'hymne à Catherine, par le représentant de Son Excellence Monseigneur l'évêque de Saint-Jean, la statue de Catherine y sera solennellement bénite, ainsi que la prière bien connue à Catherine sera dite pour obtenir sa prochaine béatification. Les nombreuses demandes spirituelles et temporelles qui lui sont faites, particulièrement la lente guérison de notre jeune Gaston Brassard, qui, à son tombeau, des plus soumises à la volonté divine, espère sa parfaite.